Chapitre 4. En rentrant chez elle, Mary Pat refuse d'admettre qu'elle est inquiète. Mais elle ne lambine pas non plus. Pas d'arrêt, pas de petit verre en vitesse dans un bar. Retour direct à la maison. Jules n'est pas là. Et d'un coup d'œil rapide à l'appartement, Mary Pat constate qu'elle n'a été là à aucun moment de la journée. Elle appelle les Morello une troisième fois. C'est de nouveau Suze qui décroche. Et Suze lui dit aussitôt
« Elle est là. Attends, je vais la chercher. »
Mary Pat se sent glisser contre le mur, mais elle a du mal à décider si c'est du soulagement ou autre chose. Est-ce que Suze a dit « Jules est là » ou « Elle est là » auquel cas, elle pourrait être Brenda, dont la voix résonne au bout du fil.
« Salut, Madame Fennessy. »«
Salut, Brenda. » Une appréhension de plomb remplit l'estomac de Mary Pat. Jules est là ?
J'ai pas vu Jules depuis la nuit dernière.
Les paroles de Brenda sortent un peu trop vite, comme si elle les avait préparées à l'avance. Ah bon ? Elle était avec qui quand tu l'as vue en dernier ? Mary Pat allume une cigarette.
Elle était avec, vous savez, Rome et... vous savez, Rome.
Rum et rum. Il va par deux maintenant.
Non, je voulais dire juste rum. Elle était avec rum.
C'était où?
Carson.
Carson est la plage du coin. Pas terrible comme plage. Pas de vagues. Une anse dans le port. Pas ouverte sur l'océan. Principalement un endroit pour les jeunes qui vont boire derrière l'ancien bâtiment des bains publics. Quand est-ce que tu l'as vue avec Rum pour la dernière fois?
Je dirais... minuit.
Et puis, ils sont partis, comme ça?
Eh ben... ouais, je veux dire... vous savez...
Non, je sais pas. Mary Pat perçoit le ton agacé de sa réponse. Elle espère que Brenda ne le perçoit pas au point de la braquer. Elle adoucit sa voix. J'essaie juste de la trouver, Brenda. Elle s'efforce de détendre l'atmosphère un peu plus avec un rire embarrassé pour ajouter « juste la mère un peu bête qui se fait du souci, tu vois ». Rien ne vient à l'autre bout du fil. Que du silence. Mary Pat se mord la lèvre inférieure assez fort pour sentir le goût du sang et de la nicotine.
« Je veux dire... »
reprend Brenda.
« Je veux dire... elle est partie avec Rome et... après, je l'ai pas revue. »
Elle buvait ?
Non !
Connerie ! Lance Mary Pat. L'espace d'un instant, elle arrête de prendre des gants. Brenda, ne me prends surtout pas pour une idiote. Et je ne te prendrai pas pour une foutue menteuse. Dans quel état elle était ? Des sifflements et des bruits secs sur la ligne. Un chien qui aboie quelque part, au loin, du côté de Brenda. Puis...
elle était... vous voyez... un peu partie. Elle avait bu quelques bières et du vin.
De l'herbe?
Ouais.
Elle était ivre-morte?
Non. Non, juste un peu bourrée, Madame F. Je vous jure.
Donc, la dernière fois que tu l'as vue, elle était avec Rum?
Ouais.
Et tu n'as plus eu de ses nouvelles depuis?
Non.
Si tu en as?
Je vous appelle sans tarder.
Je te fais confiance, Brenda. Elle met un peu de tranchant dans ses mots avant d'ajouter « Merci ». Brenda raccroche, laissant Mary Pat regarder le téléphone dans sa main, tandis que le sentiment d'impuissance qu'elle éprouve lui fait l'effet d'un train assourdissant lancé à toute vitesse à travers son corps. Jules a 17 ans. Elle peut faire ce qu'elle veut. Si Mary Pat appelle les flics... elle sait qu'ils ne pourront absolument rien entreprendre avant 72 heures, au moins. Et Mary Pat ne les a pas, ces 72 heures. Alors, elle est maintenant placée devant ce choix. Attendre sans bouger, ou fumer cigarette sur cigarette jusqu'à ce que sa fille passe la porte. C'est ce qu'elle essaie de faire pendant un moment. Puis, elle se retrouve en train de penser à Dreamy Williamson, qui doit affronter la vie sans son enfant. Et elle se souvient que Dreamy lui avait écrit une belle carte à la mort de Noël. Elle fouille dans un tiroir où elle n'a mis que des choses en rapport avec la mort de Noël, sa plaque d'identification et ses médailles militaires, le faire-part plastifié pour son enterrement, les cartes de condoléances. Et elle finit par tomber sur celle que Dreamy lui avait envoyée. Sur la première page, il y a une croix avec les mots « Puisse le Seigneur vous accorder la force de surmonter ces heures difficiles. » À l'intérieur de la carte, elle avait écrit, remplissant les deux côtés, « Chère Madame Mary Patricia Fennessy, perdre son enfant est une chose terrible pour une mère. Je ne peux pas imaginer la douleur que vous ressentez. Bien des fois, au travail, vous avez fait naître un sourire sur mon visage, ou vous avez fait passer la journée plus rapidement en me racontant des anecdotes sur votre Noël bien-aimé. Quel coquin c'était! Quelle petite crapule! Il aimait sa maman, pas de doute, et sa maman l'aimait. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur demande une chose aussi douloureuse à une femme bien telle que vous. Mais je sais qu'il nous a donné un cœur assez grand pour que nos morts puissent continuer à y vivre. C'est là que se trouve votre Noël maintenant. Il vit dans le cœur de sa mère comme il a vécu auparavant dans votre ventre. Si je peux vous être d'une aide quelconque, je vous en prie, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous avez toujours fait preuve de gentillesse envers moi et votre amitié est d'une grande valeur pour moi. Avec mes plus sincères condoléances, Calliope Williamson. Mary Pat est assise à la table de sa cuisine et scrute cette lettre jusqu'à ce que les mots finissent par se brouiller. Cette femme lui a écrit comme si elle était une amie. Elle a signé de son nom de famille, un nom dont Mary Pat ne se souvenait même plus cet après-midi. Elle a qualifié Mary Pat de femme bien et parlé d'une amitié que Mary Pat a beaucoup de mal à saisir. Oui, elle est amicale avec Dreamy, mais l'amitié, c'est quelque chose de complètement différent. Les nanas de ça aussi ne sont pas amies avec les femmes noires de Mattapan. Le monde ne fonctionne pas de cette façon. Pendant un petit moment, Mary Pat cherche un stylo et du papier pour écrire une note de condoléances à Dreamy. Mais elle ne parvient à mettre la main que sur un stylo et un petit bout de papier. Elle décide de se procurer une carte convenable demain et elle remet le stylo dans le tiroir. Elle prend une bière, son paquet de slim et un cendrier pour aller s'asseoir dans la salle de séjour. Puis, elle allume la télé et tombe directement sur les infos. Directement sur l'affaire Augie Williamson. Les enquêteurs pensent qu'il a été mortellement heurté par la rame de métro entre minuit et 1h du matin et que le choc l'a projeté en bas du quai. Le conducteur n'a pas du tout senti l'impact. Les trains ont continué à passer près du corps toute la nuit jusqu'à l'interruption du service. Et quelques-uns sont passés ce matin avant qu'un conducteur ne le remarque dans le creux sous le quai. La police refuse de confirmer les rumeurs selon lesquelles on aurait trouvé de la drogue sur lui. Et elle ne fournit pas d'explication concernant sa présence sur le quai la nuit dernière. Elle ne dit pas non plus pourquoi ou si il a sauté ou s'il a été poussé en direction de la rame. Ils font apparaître une photo de lui sur l'écran. Et elle reconnaît Dreamy dans ses yeux, d'un marron si doux qu'il est presque doré, ainsi que dans son menton et ses lèvres. Il a l'air si jeune. Mais le journaliste annonce qu'il avait obtenu son diplôme de fin d'études secondaires 2 ans plus tôt et qu'il était stagiaire chez Air dans le cadre d'une formation en gestion. Son diplôme de fin d'études ? Une formation en gestion ? Est-ce que les dealers suivent une formation en gestion ? Mais oh ! Pense-t-elle tandis qu'elle contemple les yeux du garçon à la télé. « Tu n'es qu'un bébé ?» La mère de Mary Pat avait l'habitude de dire qu'à partir du moment où un enfant commence à marcher, chaque pas qu'il fait par la suite l'éloigne de plus en plus de sa mère. Mary Pat regarde la photographie du fils de Dreamy juste avant qu'il ne disparaisse de l'écran. Et elle imagine la photo de sa propre fille apparaissant dans le même bulletin d'information. Demain, peut-être. Ou peut-être la semaine prochaine. Bon Dieu, mais où est-elle donc ? Elle éteint la télé. Elle appelle chez Rum. C'est sa mère qui décroche. Entre elle et Mary Pat, ce n'est pas le grand amour. Alors la conversation est brève.
Non, Ronald n'est pas là. Il est au travail. Au Purity Suprême, jusqu'à 10h. Non, j'ai pas vu Jules depuis... Je dirais une semaine, peut-être plus. Autre chose.
Mary Pat raccroche. Elle s'assied. Et elle reste assise là. Une heure ou une minute, elle serait incapable de le dire. Avant même de se rendre compte de ce qu'elle fait, elle attrape ses cigarettes et ses clés sur le plateau, près du fauteuil relax, et sort de l'appartement. Elle passe derrière son immeuble et suit le sentier jusqu'à la porte de sa sœur dans le bâtiment Franklin. Big Peg a une fille du même âge que Jules. Les deux filles ne sont pas terriblement proches, mais elles aiment bien quand même prendre du bon temps ensemble. On pourrait en dire presque autant de Mary Pat et Big Peg. Elles ne sont pas terriblement proches, mais cela ne les a jamais empêchées de boire un bon coup ensemble quand il leur arrive de se croiser. Mary Pat, qui n'est pas une grande voyageuse, a tout de même réussi à voir quelques endroits du New Hampshire, du Rhode Island et du Maine au cours de sa vie. Mais pas Big Peg. Peg a épousé Terry, Terror Town, Mac O'Leafe, 2 jours après le bal de fin d'année des terminales. Ils ont commencé à sortir ensemble en classe de 3e à Southie High, et ni l'un ni l'autre n'ont une ambition connue de qui que ce soit en dehors du fait qu'ils ne veulent en aucun cas sortir de Southie. C'est déjà un jour spécial quand ils vont à Dorchester. Et Dorchester n'est qu'à 6 rues de chez eux. Et si les gens trouvent leur vision du monde étroite, eh bien, Big Peg et Terror Town n'ont rien à foutre des gens. La seule chose dont ils n'ont pas rien à foutre, c'est ça aussi. Ils ont élevé 7 gosses qui ont adopté la fierté que leurs parents éprouvent pour leur quartier comme l'évangile du Christ. Si le Christ avait été élevé à Commonwealth et avait eu tendance, sans raison particulière, à casser la gueule à tous ceux qui n'avaient pas grandi là. En fonction de leur âge, ces gosses, Terry Junior, Little Peg, Freddy, JJ, Helen, Podrick et Lefty, prénommé Lawrence à sa naissance, mais il n'a jamais été appelé de cette façon une seule fois dans son existence, règne sur les recoins et les porches de la cité, ainsi que sur les bacs à sable des terrains de jeu, avec une fierté si fougueuse et inflexible qu'elle ne peut que devenir violente quand elle est contestée, même de façon marginale. En tant que pilier de la cité elle-même, Mary Pat ne sait que trop bien ce qui arrive lorsque le soupçon que vous ne valez pas grand-chose se trouve, en désespoir de cause, transformé en la conviction que le monde entier se trompe à votre sujet. Et si les autres se trompent sur vous, alors il est probable qu'ils se trompent aussi sur tout le reste.